Voilà, nous ouvrons donc cette émission avec Yannick Martin, programmateur artistique de la Carène, et Gildas Rioux-Alain, cofondateur et programmateur du festival Astropolis. Bonsoir messieurs et bienvenue sur notre plateau.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis content d'être là.
Eh ben ouais, ça fait voilà depuis 6 ans maintenant qu'on essaye d'année en année de se retrouver au moins en octobre, parce que c'est une date qui revient tous les ans quasiment à la même période.
Ouais, c'est un rendez-vous, je crois, de rentrée également. Hein, donc,
De rentrée et de vacances.
Et de vacances.
Eh ouais, parce qu'on est, c'est toujours calé sur les vacances de la Toussaint.
Ouais.
Je sais pas s'il y a un truc un peu mystique là-dedans, mais c'est une volonté d'astro de toujours.
De figer un peu le moment, en fait, que ce soit le rendez-vous, on se pose pas trop la question, on sait très bien que ce sera.
Dans le calendrier, ouais,
voilà, premier.
Alors ce soir, c'est une coproduction Astropolis La Carène hein, pour cette grande fête en famille, 6e édition et une fois plus sold out, comme je disais tout à l'heure. Le bunker brestois, c'est une vraie success story. Comment vous l'expliquez tous les deux ?
Tout simplement, l'énergie vient beaucoup des collectifs. On n'a qu'à voir le paysage français, surtout. Si aujourd'hui les clubs fonctionnent aussi bien, c'est évidemment grâce aussi aux programmations qui sont très très riches, mais c'est aussi à l'énergie de tous ces collectifs et toutes ces associations qui apportent leur état d'esprit, leur recherche, parce qu'il y a beaucoup de diggers, il y a beaucoup de gens qui passent des heures et des heures tous les jours à écouter de la musique, et puis dans ces collectifs il y a aussi beaucoup de DJ, voire beaucoup de compositeurs, donc mettre en place aussi des soirées pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir jouer, et aujourd'hui à Brest, on a la chance d'avoir un club qui s'appelle La Suite, qui organise des soirées électro tous les samedis, il y a aussi le Vauban. Et il y a aussi la Carène qui est là pour les grands rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, c'est la 6e édition. C'était beaucoup d'échanges avec Gwen Potard, l'ancien directeur de la Carène. Et c'était justement où je m'apercevais qu'il y avait une grande richesse de collectifs à Brest. Et puis cette envie de peut-être pas faire comme dans les autres villes. Moi, c'est surtout l'expérience qui a parlé, c'est-à-dire... Je me suis aperçu, parce que j'ai l'occasion de beaucoup me déplacer un peu partout en France durant l'année, et qu'il n'y avait pas forcément dans certaines villes cette communion, cette volonté de travailler ensemble. Là, grâce au bunker brestois, aujourd'hui, on est tous en réseau entre collectifs, on se prête du matériel, on se conseille, on essaie de ne pas programmer forcément les mêmes artistes, voire dans des styles différents le week-end. On est plus dans la concertation et on est plus aussi... Donc, on va dire un projet un peu global qui se fait assez naturellement, alors que dans certaines villes, parfois, c'est un peu plus tendu. Brest, pas du tout.
On peut parler de Rennes,
oui.
Moi, je suis toujours le premier à dégommer les Rennais. Hein. Bonjour, je suis brestois. En tout cas, non, ce qui est cool aussi, ce que dit c'est que c'est aussi des groupes, c'est des collectifs qui grandissent. Hein. Parce que nous, à la Carène, on aime bien un peu suivre comme ça les choses. On voit que ça se professionnalise beaucoup. Il y a des gens qui commencent. Comme Gilda a commencé avec Mathieu il y a quelques années, où c'était des étudiants. Hein, ils ont commencé à faire des petites fêtes, et puis au final, ils sont devenus pros. Et je trouve qu'il y a beaucoup de professionnalisme. Enfin, moi, je suis étonné par les collectifs qui sont beaux à être amateurs. Ils ont tous des boulots à côté, mais ils sont très, très pros. Quoi. Enfin, ils ont vraiment plein de choses. Qui sont... Donc, du coup, nous, ici à la Carène, on accueille et des amateurs et des professionnels, mais c'est toujours plaisir d'avoir des gens qui sont hyper passionnés et qui sont là pour mettre le feu. Quoi.
Et puis, ça a été une volonté de faire ce coup de projecteur justement. Aujourd'hui on a 17 collectifs de programmés. Il y a aussi Gloriole qui intervient, donc on se rapproche vraiment de la vingtaine de collectifs, et puis il y a plusieurs générations quand même. Les premiers collectifs West Sound, Sector West, c'était déjà il y a 10 ans.
Il y a une dizaine d'années,
aujourd'hui, il y a des nouveaux collectifs qui sont nés il y a à peine un an ou deux, après le confinement, qu'on reçoit ce soir. Et puis, je me suis aperçu aussi, on va dire à peu près le même bilan, c'est que... Parfois, les générations font qu'on ne se croise pas, chacun reste dans son coin, ou des événements comme celui-ci, le bunker brestois, on a tous mangé ensemble au catering, là, on va tous se croiser dans les loges, on va pouvoir discuter. Peut-être que des projets vont naître, aussi bien de composition, mais pourquoi pas les back-to-back qu'on... On n'a pas imposé les back-to-back, mais on essaie quand même de manière à rassembler tout le monde. On est obligé d'organiser des back-to-back, sinon il n'y aurait pas la place pour tout le monde, et puis il y aurait aussi des frustrés. Et j'espère qu'il n'y en a pas. On essaie de vraiment faire participer l'ensemble des collectifs qui ont une dynamique aussi sur le territoire local. Parce que après, il y en a d'autres aussi, mais qui sont peut-être plus... trop présents et voilà, qui sont passés à autre chose. C'est aussi ça la vie d'un collectif, hein, c'est que, comme dit Yannick, ce sont souvent des amateurs, ils ont un travail à côté ou bien alors sont étudiants et la vie fait que, bah voilà quoi, on part dans d'autres villes où on a un boulot qui fait qu'on peut plus, et puis il y en a d'autres qui apparaissent, il y en a d'autres qui fusionnent. Si on devait faire un peu la cartographie des collectifs brestois, il y a du mélange quand même.
Il y a du mélange. Yannick, est-ce qu'on pourrait avoir justement ton regard, toi tu es en relation avec les autres SMAC sur la France, est-ce qu'il y a aussi des soirées organisées comme ça à Angers, à Nantes?
Non, en fait je quand on me demande c'est quoi la grosse soirée à la Carène en automne, je réponds le bouquin brestois, mais c'est quoi le bouquin brestois? Donc je leur explique le concept et ils me disent, ah, mais nous on pourrait jamais faire ça dans notre ville parce que déjà on fait pas de soirée électro. Alors on fait pas de soirée pas tardive, voilà, il y a plein de SMAC qui ne font pas, qui ne bossent pas.
Tu parles de soirée tardive, c'est-à-dire qu'ils finissent à 4h?
Ouais, voilà, c'est ça. Donc on sait que la musique électronique, ça s'écoute pas à 21h, en tout cas très peu.
C'est souvent côté soirée bordel.
Donc il y a des villes où c'est pas possible, des SMAC où c'est pas possible, parce que je sais pas, pour l'historique aussi fait que, parce que si la Carène existe, c'est aussi grâce à Astropolis, qui, il faut le rappeler, était un des principaux militants de Une Salle à Brest, une asso qui militait pour Une Salle, avec plusieurs producteurs notamment, mais vous étiez vraiment en fer de lance. Et effectivement, quand la Carène est arrivée, nous, dès lors qu'on est arrivé, Astropolis est arrivé dans nos lieux et aussi a fait vivre et a fait aussi l'originalité de la Carène. C'est-à-dire que si on a des soirées comme ça, c'est aussi parce que dès le départ, ça a été ouvert, puis c'était une salle qui était demandée par la base. C'est pas un bâtiment qui est arrivé comme ça, qui a été décidé par la mairie, on va faire des murs et on va voir ce qu'on fait après dedans. En fait, la Carène, elle est arrivée parce qu'il y avait une demande de plein de gens très différents.
Il faut savoir qu'à l'époque, quand même, pour aller voir un concert, quand Yannick et moi, on écoute toujours de la pop, hein, mais fallait qu'on aille à Nantes, Rennes ou à Paris, et on y allait parfois en stop, quoi, parce qu'il n'y avait aucun groupe anglais qui passait par Brest, quoi. Et c'est toujours même difficile aujourd'hui de
difficile,
les faire passer
mais,
par
moins,
Brest.
On peut au moins prendre ce qui notre richesse à nous, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire venir des groupes rock anglais à la mode, on a des collectifs brestois électro qui sont très très bien et qui font super bien le job, donc autant rester, faire du local et du... parce que ça marche aussi bien et c'est aussi passionnant, quoi, enfin, quand on voit l'énergie qu'il y a et on voit la réponse du public.
C'est ça en fait qui est super. C'est la réponse du public. Donc ce soir, trois salles, trois ambiances, du groove, de la techno, de la club musique. Gildas, est-ce qu'il y a une méthode justement pour monter un line-up, pour faire des B2B? Bon, j'ai vu qu'il y avait aussi, parce qu'on a la timetable devant les yeux, pour tout vous dire, il y a du B2B, mais il y a aussi des artistes qui vont jouer solo.
Ouais, des artistes qui jouent solo parce que sont pas encore habitués peut-être à jouer en B2B, tu vois, même si ce qui est chouette, c'est ici on a quand même un super outil et la plupart des back-to-back qui stressaient, qui avaient pas suffisamment d'expérience de jouer avec des gens un peu qu'ils connaissaient pas forcément, hein, parce que certains DJ ce soir, c'est par le style musical qu'ils se sont réunis, mais ils se connaissent pas forcément. Ouais. Donc ils ont pu profiter aussi des studios de la Carène en amont pour venir travailler, répéter, apprendre à se connaître et faire en sorte de partager ce moment-là devant le public, quoi. Et ensuite, y a une grosse diversité musicale quand même, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans où on était très techno-industriel, assez dur.
Oui, ça s'est ouvert. Le spectre c'est bien ouvert quand même.
C'est vraiment bien ouvert et ça fait du bien.
Avec la nouvelle génération.
Exactement. Et ça fait beaucoup de bien et donc ça permet aussi d'avoir une diversité musicale sur l'ensemble des trois spots là justement ce soir à la Carène.
Comment justement quel regard vous portez sur l'évolution de cette scène, la scène électro, comme tu dis, voilà, c'était il y a 4-5 ans assez quand même techno, berlinoise ou bien marquée.
Darkos.
Là aujourd'hui ça va un peu plus vite, mais les sons changent.
Ça suit beaucoup la tendance aussi. Et puis après, on va dire que chaque collectif brestois a une identité quand même, quoi. C'est ça qui est aussi qui fait aussi la valeur du collectif, hein. C'est pour ça qu'un public va suivre tel collectif pour ce son et ce style et peut-être pas d'autres. Donc l'objectif, moi toujours, c'est ce que je fais aussi sur Astropolis, c'est moi, entendre la même chose du début à la fin, ça m'emmerde.
Ouais.
Et je suis vraiment pour la diversité, quoi. C'est vraiment, c'est qui on est pour tout le monde et ça crée une ambiance, ça pousse à la curiosité aussi, parce que sinon on écoute tout le temps la même chose et tout le temps le même style. Donc il faut pousser un peu les portes et aller voir aussi ce que font les autres et peut-être qu'il y aura des belles découvertes pour certains.
Mmh. et on parlait diversité. Du coup, moi, je voulais parler parité, mixité. Est-ce que là, on a 4 filles ce soir ?
Ouais.
Est-ce que là, sur la scène électro locale, du coup...
Eh ben, il y en a pas beaucoup. On va dire, j'espère que, par exemple, sur Astropolis, on fait des masterclass en non mixité parce qu'on s'est rendu compte que certaines filles avaient un peu peur ou étaient un peu intimidées de le faire en mixité, et ça fonctionnait super bien. Nous, vraiment, atelier mix, atelier Appleton en non mixité, c'est tout le temps rempli. Donc, on essaie de créer cette motivation. Maintenant, sur la scène brestoise, DJ féminin, il n'y en a pas beaucoup. J'espère que celles qui sont sur scène ce soir vont motiver d'autres et ouvrir les portes à d'autres. Mais en tout cas, on revient de très très loin. On vient vraiment de très très loin. Encore il y a 30 ans, en France, on avait Jennifer Cardini, on avait Chloé. Elles étaient 3, 4 à se partager l'Hexagone. Depuis qu'il y a eu, on va dire, cette prise de conscience collective, parce que c'est venu quand même d'un coup et il fallait, même si ça a été beaucoup critiqué par certains, c'est-à-dire ce côté où on coche des cases, vous faites ça parce qu'il faut le faire, si on le fait pas, ça n'avancera jamais non plus, quoi. Donc il faut y aller, et ce discours là j'en peux plus de l'entendre. Vous vous forcez à faire des filles, mais on va pas faire de la merde pour autant, quoi. C'est moi, sur la première Astro où on a programmé beaucoup de DJ féminins, j'ai été super critiqué, comme si j'allais recevoir beaucoup plus de subventions en programmant plus de filles. Et je peux dire que ça, j'étais dans cette aura de pousser les portes. J'ai passé beaucoup plus de temps à écouter de la musique parce que voilà, on trouve vraiment de tout. Il y a ceux qui surfent sur la tendance et qui vont profiter. Il y a certains managers et certains tourneurs, surtout les Anglais, c'est à vomir. Je reçois des vidéos où vraiment la femme n'est pas mise en valeur. Au contraire, c'est vraiment lamentable et dégueulasse de voir certaines images. Parfois c'est forcé, il y a un rapport à l'argent qui est là et c'est juste dégueulasse, quoi. Mais voilà, faut passer plus de temps, il y en a, donc faut écouter davantage, aller encore un peu plus loin dans ses recherches et trouver son plaisir. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins compliqué parce qu'il y a vraiment, et je pense que c'est un des styles musicaux, la musique électronique qui s'est vraiment... Vraiment, mais c'est souvent, l'électro c'est souvent comme ça, de toute façon, il y a un côté toujours militant, c'est quand même une musique qui est assez politique, assez politisée, en tout cas dans le bon militantisme, que ce soit noir, blanc, enfin voilà, il y a eu quand même toute la scène gay aussi, enfin il y a eu plein d'histoires de militantisme qui sont nées de cette culture-là, et je crois que voilà, tout le monde s'est mis très rapidement à vouloir changer les choses dans le monde des musiques électroniques, et on peut en être fier, ouais.
Il faut savoir que aussi que nous, que ce soit Astropolis ou la Carène, nous on est le dernier maillon de la chaîne, c'est que les gens oublient ça en fait, c'est que nous on est juste des diffuseurs. Et on diffuse des artistes. Et si les artistes sont pas aidés à la base, c'est-à-dire que justement, je parle des ateliers, en fait, tout parle de la base. C'est-à-dire que si on donne pas les moyens aux musiciennes de s'exprimer au départ et de se former, rien ne va y passer. On va pas plus trouver de talent féminin. Si on donne pas les moyens aussi, si les producteurs, les tourneurs ne prennent pas dans leur catalogue des artistes féminines, nous, on va pas les diffuser. Voilà, parce que nous, on est que des diffuseurs, hein. On crée pas les artistes, on les diffuse. Et effectivement, c'est plutôt à eux de demander de faire. Et je pense qu'il y a certains qui ont compris ça, et que de plus en plus on retrouve des talents féminins, et que les talents féminins ont aussi les mêmes moyens que les talents masculins pour émerger. Et c'est ça qui est important. Hein.
Et on a vu très rapidement le malaise. Il y a eu des super statistiques là-dessus où on voyait en école de musique une parité, autant de filles que de gars, et finalement ensuite en pratique professionnelle où elles n'étaient plus là, les filles, quoi. Donc pourquoi il y a un problème, tout simplement, quoi, parce qu'elles étaient là justement dans toute cette phase de d'école de musique, apprendre, etc., et ensuite arriver à la scène et à la phase de professionnalisme, hop, elles disparaissent. Et aujourd'hui, justement, eh ben, y a un gros travail qui est mis en place de la part de beaucoup d'outils comme les SMAC en France, justement, pour pousser et pour accompagner et pour motiver. Et je trouve que les résultats, au bout de quelques années, parce que ça fait pas très longtemps quand même, hein, faut le rappeler, hein, ben, c'est plutôt très positif.
Et bien, notamment, j'ai assisté à un atelier, alors c'était plutôt mapping, mais il y avait Ableton aussi, du coup, l'année dernière pour la Soundscape. Et j'avais beaucoup aimé Flore, d'ailleurs, comme DJ, et puis voilà, tous les effets de scénographie réalisés. Et ce soir également, on a une scénographie très installée, donc dans les deux salles, au club et dans la grande salle.
Il y a des gens qui ont œuvré pour la scénographie, qui ont fait de la menuiserie, quelqu'un présent ici.
C'est aussi collectif, hein, dans la grande salle, c'est le collectif Visu, en fait. Ouais. Bon, après, dans le club, c'est Adrien qui est en solo,
Data
quoi.
Mais
bon, voilà, ça fait partie des identités brestoises, en fait.
Oui,
parce que Datatura, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec lui. Il accompagne Kuften sur sa scénographie de live, où il joue un peu partout en
avec
France.
Avec ses télés, là, pour le coup. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais, TV, laser, écran vidéo également. Il a fait toute la création vidéo sur le live de Kuften. Là, en ce moment, il travaille avec l'artiste Sou de Brest. Là, en ce moment, on travaille en résidence à la Carène. D'ailleurs, cette semaine, on était avec Sou, où justement, Adrien Datatura travaillait sur tout ce qui était création visuelle et programmation pour son live au Transmusical le 8 décembre.
Super. C'est quoi le hall?
C'est le hall 9.
C'est bien, c'est le meilleur.
C'est le plus grand. Elle clôture. Il finit à 4 heures et elle joue de 3 à 4.
Super. On peut le rappeler.
Ouais.
Du coup, le visual art fait partie intégrante de la fête, on peut dire ça. Est-ce que là aujourd'hui, il y en aura un en live au final, du coup, c'est Datatura?
Oui, c'est ça.
Ce sera du live.
Ce sera du live, ouais, bien sûr. Ouais.
Vous avez Liquid Live Show, c'est ça?
Je suis pas très douée en anglais. Exactement. Mais... Ouais. Ça reprend un peu on va dire, le concept des années 70, des lampes un peu psychédéliques en couleurs primaires. C'est chouette. Moi, j'adore cet état d'esprit-là.
Donc, on est sur de la performance un peu.
Tout à fait.
Ce soir.
Complètement.
Tout à fait. Moi, je vais un petit peu parler de ce qui s'est passé entre 18h30 et 21h avec la Carène qui a ouvert ses studios pour le Studio Rama. C'est quoi le Studio Rama?
Le Studio Rama, alors c'est un petit peu le. Comment dire? C'est un moment où on s'est dit qu'il se passait plein de choses au studio. Il y a des gens qui répètent tout le temps, des musiciens qui répètent, qui créent. Et qu'on n'avait pas forcément. On n'avait pas forcément les moyens de montrer ce qu'ils faisaient. Alors après, on a des soirées dédiées aux groupes amateurs qui répètent au studio, mais voilà, c'est souvent des formats concerts. Et on voit pas forcément les trucs se faire en temps réel. Donc ce qu'on a fait, c'est le Studio Rama, c'est un moment un peu protéiforme. Il y a plein de formes différentes, c'est des petits lives souvent de 15-20 minutes ou des choses en devenir ou des choses un peu expérimentales de tout ce qui se passe dans la Carène. Donc ça se passe dans les studios de la Carène et dans le hall. On mixe les formes. Des fois il y a que un live, des fois il y en a deux, des fois c'est des choses qui sortent aussi un petit peu de l'ordinaire, des fois il y a de la musique, il y a de la vidéo, il y a plein de choses.
Il y avait quatre performances ce soir là.
Ouais, donc du coup on essaie de voilà, et c'est dans tous les styles. C'est-à-dire le Studio Rama n'a pas de style, il y a des Studio Rama rap, des Studio Rama pop, des Studio Rama électro, et en fait c'est un petit peu l'activité de ce qui se passe dans nos studios, mais fait de façon un petit peu vignette et à l'heure de l'apéro. C'est-à-dire qu'on monte un petit bar, on vient, c'est pas très engageant, c'est gratuit, on vient voir un petit truc, ça dure 20 minutes, c'est un work in progress. Et puis ça nous permet de mettre un petit peu en valeur, de dire que les studios, c'est pas que des gens qui répètent, c'est aussi des gens qui créent de la musique. Et même si on les diffuse pas, nous, dans des soirées, parce que la forme ne convient pas ou parce que c'est trop tôt, ça permet de voir en fait des choses. Même nous, on y va, nous, les gens de la Carène, on est au courant de ce qui se passe dans nos studios, parce que c'est vrai que le bâtiment est grand, on a tous des missions très différentes, on n'a pas forcément le temps d'aller voir ce que font les copains. Et du coup, les Studios Rama, nous, ça nous permet de mettre une petite remise à niveau sur l'activité des studios. Voilà.
Oui, pour l'artiste, c'est motivant.
C'est motivant aussi, c'est un
c'est aussi une reconnaissance quelque part, quoi. Et puis ça permet de jouer devant du public, et puis dans un lieu peut-être où on est moins stressé parce qu'on connaît.
Voilà, et puis c'est pas le côté scénique n'est pas là, donc c'est plus voilà, on propose quelque chose, quoi.
Tu voulais intervenir, Morgane?
Du coup non, je voulais enchaîner sur l'affiche. Je sais pas si vous pouvez nous en dire un petit quelque chose. Donc l'année dernière, c'était plutôt style un peu propagande pour moi, rouge et noir. Donc c'était Utah d'ailleurs, apparemment.
Oui.
Aussi. Cette année, elle est plutôt dans les tons bleus. Alors pour moi, je la définis un peu style années 80, cartoonesque, un peu humoristique. Et c'est toujours collectif Utah et éphémère aussi, il me semble. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle représente?
Bah, ce sont des danseurs.
Ce sont des danseurs.
Okay. Sont des danseurs, tout simplement.
C'est Astro avait passé une commande pour ce visuel particulier ou alors c'était carte blanche?
Complètement carte blanche parce okay. que j'ai largement confiance en eux. Nous on travaille beaucoup avec eux, bah, toute l'impression de nos suites t-shirts bio, impression et puis chaque Bunker Brestois ils sont là depuis le début avec avec leur stand dans le hall où ils font la sérigraphie en direct et en fait à chaque fois ils faisaient un visuel propre à eux ils détournaient notre visuel pour l'imprimer en sérigraphie sur place ici et je leur ai dit autant que ce soit cohérent et que vous fassiez le visuel dès le départ et ils ont encore un peu détourné là mais l'objectif de toute façon de ce Bunker Brestois c'est de faire participer un maximum de forces vives et motivées et à participer justement à ce rendez-vous collectif et ils en font bien partie.
La culture n'est pas que musicale, voilà, elle passe aussi à travers des choses comme ça. Quels sont vos prochains projets communs, La Carène et Astro? Sur quoi vous allez travailler là?
Il faut qu'on fasse une réu, on en a plein.
Qu'est-ce que vous avez sous le coude là en ce moment?
Il y aura l'hiver déjà, notre cet hiver.
Il y a Dominica quand même.
Il y a Dominica, oui, bien sûr.
La date est en février, je crois. C'est aux alentours de 20 février.
23-24 février. Pour les soirées à La Carène.
D'accord.
Après, on va faire aussi. Bon, après, Astropolis l'hiver, c'est avec vraiment beaucoup de partenaires. Beaucoup de partenaires brestois, hein, que ce soit Passerelle, Macorlan, enfin on travaille vraiment avec tous les lieux où il fait chaud.
Vous avez tout à fait raison.
Et après il y aura sans doute des choses cet été aussi, il y aura peut-être des choses en cours, on ne sait pas, voilà, mais c'est régulier en tout cas.
Bon bah super, merci messieurs d'être passés par le plateau de Radio U.
Bah merci à vous, merci encore une fois.
Bah oui, on est là et on sera là de toute façon en 2024, en février, en juillet et sur plein d'autres comme ça pour le prochain Bunker Brestois, le numéro 7 aussi en octobre l'année prochaine.
On est là ce soir avec la date est déjà posée.
C'est vrai.
Les vacances scolaires sont arrivées.
Aux alentours
le vendredi des vacances. Je crois que c'est décalé, mais ce sera
troisième semaine d'octobre.
Un truc comme ça.
Voilà. Noter dans vos tablettes.
Et bien à bientôt.
Merci Gilda, merci Yannick.
Salut.
Salut, bonne soirée.
Bonne soirée.